Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale consacrée au débat général de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui cette année a été marquée, entre autres, par le terrorisme international. Nous ferons un tour d'horizon de la question par le biais des interventions des dirigeants du monde venus de tous les continents. Bonne écoute.
The sixth plenary meeting of the General Assembly is called order.
194 orateurs, dont 117 chefs d'État et de gouvernement, sont venus prendre part à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Session placée sous le signe de l'élaboration d'un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015, mais dont les allocutions ont fortement porté sur la lutte contre l'extrémisme radical et le terrorisme international, fléau qu'incarne particulièrement le IIL, l'État islamique en Irak et au Levant, Al-Qaïda et Boko Haram. Ainsi, dès son discours inaugural, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné la gravité de la situation actuelle. Cette année, l'espoir est peu visible à l'horizon. Des actes indescriptibles ont été commis, des innocents sont morts, le spectre de la guerre froide est revenu nous hanter. Le printemps arabe a en grande partie été emporté par un vent de violence.
Après la dernière tragédie de Gaza, le clivage entre Palestiniens et Israéliens semble plus profond que jamais. Si nous ne sauvons pas la solution des deux États, ce sont des hostilités permanentes qui nous attendent. Le Mali et le Sahel continuent d'être aux prises avec l'insurrection, le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité organisée. En Somalie, une coalition d'États africains affronte le groupe terroriste des Shabab. Au Nigeria, Boko Haram poursuit de plus belle sa campagne sanguinaire dont les conséquences sont terribles pour les femmes et les filles.
Suite au discours du secrétaire général, les pays ont, comme de coutume, pris la parole à tour de rôle. Le président des États-Unis, Barack Obama, a dénoncé la prise en otage de l'islam par les extrémistes et prôné une riposte forte en quatre points. Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Selon le président américain, la communauté internationale doit réagir dans quatre domaines. D'abord pour affaiblir et éventuellement détruire l'IIL. Il a invité l'ensemble de la communauté internationale à se joindre à la coalition de 40 pays engagés dans cet objectif. Ensuite, il faut rejeter avec force et de façon explicite les idéologies extrémistes, surtout dans les communautés musulmanes. Par ailleurs, il faut mettre un terme aux conflits sectaires qui sévissent dans le monde arabe, en particulier par des négociations larges et directes avec les interlocuteurs de la région. Enfin, la mise en valeur du formidable potentiel de population du monde arabe et surtout des jeunes pour qui il faut trouver des alternatives au terrorisme.
Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, vous comprendrez qu'aujourd'hui je m'exprime devant vous avec une émotion particulière.
Ému de l'assassinat le jour même d'Hervé Gourdel, un ressortissant français enlevé en Algérie par un groupe qui se dit lié à Daesh, acronyme arabe de l'EIIL, le président français a affirmé que la France ne céderait jamais et qu'elle lutterait sans répit pour détruire Daesh et ses complices. François Hollande qui a averti contre le terrorisme d'aujourd'hui.
Daesh ne frappe pas simplement ceux qui ne pensent pas comme lui. Il frappe des musulmans, il frappe des populations civiles, il frappe des minorités, il viole, il tue. Et c'est parce que cette menace existe, non seulement pour la région, mais pour le monde, que la France a entendu répondre à l'appel des autorités irakiennes pour que nous puissions leur prodiguer d'abord une aide militaire à travers un appui maintenant aérien pour éviter que le groupe Daesh puisse continuer sa progression.
François Hollande qui a également évoqué la question des combattants terroristes étrangers. Plus de 13 000 ont quitté leur pays pour se joindre à l'EIIL depuis janvier, dont environ 1 000 Français. La lutte contre le phénomène de ces combattants fera par ailleurs, dès la première journée de débat à l'Assemblée, l'objet d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité et à laquelle ont adhéré plus de 100 pays. Pour le dirigeant français, rien de durable ne sera engagé si la question syrienne n'est pas réglée. Et pour ce faire, son pays apportera tout son soutien à l'opposition démocratique syrienne, seule représentante légitime du peuple syrien. Voilà 3 ans et demi que nous vous mettons en garde contre l'appui indiscriminé de tout groupe contre notre gouvernement, a affirmé la Syrie par la voix de son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Walid Al-Mualem. Pour lui, la solution à la crise syrienne est politique. Elle doit être trouvée avec une opposition qui ait des racines profondes en Syrie et non dans des hôtels et des capitales occidentales. Mais si la coalition pour porter des frappes à l'EIL compte plus de 40 pays, elle ne fait pas l'unanimité des pays. Brésil, Iran, Argentine et bien d'autres s'interrogent sur le recours à la force et les politiques qui ont mené jusque-là. Cristina Fernández, présidente de l'Argentine.
Si nous voulons combattre le terrorisme, œuvrons pour la paix. On ne combat pas le terrorisme avec les tambours de la guerre, au contraire, c'est exactement ce qu'ils recherchent, une réaction symétrique afin de pouvoir se venger. C'est pour cela que je crois qu'il est essentiel que nous réfléchissions profondément à ces questions et je suis sûre que si cette Assemblée, cette ONU, reprend son leadership et mandat devant les politiques de deux poids, deux mesures de certains pays qui appliquent le droit international à d'autres pays sans pour autant y adhérer, je suis convaincue que nous aurons fait un grand pas dans la construction de la paix et la lutte contre le terrorisme sans absent et que nous léguerons ainsi à nos enfants un monde meilleur.
Un mundo mucho mejor del que hoy tenemos.
Pour Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, le terrorisme puise ses racines dans la pauvreté, le chômage, la discrimination, l'humiliation et l'injustice, et prospère dans la culture de violence. Pour l'extirper de nos sociétés, il importe de favoriser la justice et le développement en faisant barrage à la distorsion des enseignements divins pour justifier la brutalité et la cruauté. Mais le terrorisme est également le fruit des stratégies erronées du passé.
L'agression militaire contre l'Afghanistan et l'Irak et l'ingérence dans le conflit syrien sont des exemples clairs d'une approche stratégique erronée au Moyen-Orient. De la même façon, la démocratie ne saurait être transplantée de l'étranger. La démocratie est le produit de la croissance et du développement et non de la guerre et de l'agression. La démocratie n'était pas un produit exporté, susceptible d'être commercialement importé de l'Ouest vers l'Est. Dans une société sous-développée, une démocratie importée mène uniquement à un gouvernement faible et vulnérable.
La montée de l'extrémisme violent et du terrorisme international ont suscité de vives réactions de la part des pays du Moyen-Orient. Presque tous ont dénoncé l'utilisation de la religion pour commettre des actes violents et déplorer le nombre de victimes civiles. À l'instar du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, qui s'est levé contre toutes les formes d'extrémisme, de terrorisme et de division confessionnelle au Moyen et au Proche-Orient, qui posent plus largement des problèmes pour la paix et la sécurité internationale.
Au-delà de la menace de l'État islamique en Irak et au Levant, l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen et la Libye, ainsi que les États de la région du Sahel, sont directement touchés par les groupes takfiri qui ont exploité l'instabilité dans ces pays pour tenter d'y créer des sanctuaires et puiser des fonds, un soutien logistique et des entraînements. Les Émirats sont particulièrement préoccupés par la détérioration des conditions de sécurité dans ces pays et les répercussions sur leurs voisins.
Plusieurs pays de la région ou à dominante musulmane, Maroc, Jordanie, Liban, ont souligné que l'islam et la démocratie sont conciliables, à l'instar du président Mohamed Monsef Marzouki de la Tunisie, à qui nous avons tendu le micro à la sortie de l'Assemblée. Il revient sur la montée de l'EIIL.
Nous payons les erreurs et les fautes de 50 années de mauvaises pratiques, y compris celle de vouloir mêler la religion à la politique. Il y a plein de pays, plein de régimes qui se sont amusés à ce jeu et aujourd'hui le regrettent amèrement. Mais il va falloir qu'on fasse avec. Alors il y a des solutions à court terme qui sont malheureusement des solutions sécuritaires parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on s'arrête aux solutions sécuritaires, on n'a rien fait. Il faut maintenant s'adresser à toutes les causes qui ont abouti à cela. L'absence de travail pour les jeunes, l'éducation basée sur la religion, etc. Il faut revoir tout ça. Nos programmes éducatifs, notre modèle économique, notre mode de fonctionnement social, etc. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bataille sécuritaire, c'est une bataille d'idées et d'idéaux et de projets sociaux. Et la démocratie est ce projet pour lequel moi je me bats.
Autre intervenant clé par rapport au terrorisme, les protagonistes du conflit israélo-palestinien, jadis associés à la montée de l'extrémisme au Moyen-Orient. Les 50 jours de violence dans la bande de Gaza cet été, troisième crise du genre, ont été parmi les plus meurtriers, avec plus de 2000 morts, dont plus de 400 enfants gazaouis. Le Premier ministre et ministre des Affaires publiques et de la diaspora d'Israël a prévenu « Partout où nous regardons, l'islam militant avance », en précisant qu'il ne s'agit pas de militants, il ne s'agit pas d'islam, mais d'islam militant dont les premières victimes sont souvent des musulmans. Pour Benjamin Netanyahu, le IIL et le Hamas sont équivalents.
ISIS et Hamas sont branches de la même poisonous tree.
L'État islamique d'Irak et du Levant et le Hamas sont les branches d'un même arbre empoisonné. Le Hamas a pour objectif immédiat de détruire Israël, mais il veut aussi un califat. Ces personnes veulent créer des enclaves où ne règne aucune liberté, où les femmes sont traitées comme du bétail et où les chrétiens sont décimés.
Néanmoins, Benjamin Netanyahu estime qu'il y a actuellement une opportunité pour aller de l'avant.
Il y a un nouveau Moyen-Orient. Il présente de nouveaux dangers, mais aussi de nouvelles opportunités. Israël est prêt à travailler avec les partenaires arabes et la communauté internationale pour affronter ces dangers et saisir des occasions. Ensemble, nous devons reconnaître la menace globale de l'islam militant, la primauté du démantèlement d'armes nucléaires, de la capacité de l'Iran et le rôle essentiel des États arabes dans la promotion de la paix avec les Palestiniens.
Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, est pour sa part revenu sur la nécessité de trouver une solution qui tienne compte des causes profondes du terrorisme, dont l'occupation de la Palestine.
Affronter les groupes terroristes qui minent notre région, tels que le IIL et d'autres, qui ne sont aucunement ancrés dans la religion islamique tolérante ou avec l'humanité et qui commettent des atrocités brutales et haineuses, nécessite beaucoup plus qu'une confrontation militaire. C'est une question urgente qui nécessite beaucoup plus que des condamnations et déclarations d'opposition. Il faut une stratégie globale et crédible pour assécher les sources du terrorisme et éradiquer ses racines dans toutes les sphères, politiques, intellectuelles, économiques et sociales, de notre région. C'est une tâche collective menée par l'Alliance des Nations, des peuples et des civilisations. Cela exige, dans ce contexte et de façon prioritaire, de mettre un terme à l'occupation israélienne de notre pays. Cette occupation constitue, dans ses pratiques et sa longue durée, une forme odieuse de terrorisme d'État et un terrain fertile pour l'incitation, la tension et la haine.
Enfin, autre préoccupation suscitée par cette montée de l'EIIL et ses affiliés, la remise en question de la légitimité de l'ONU. Si Ban Ki-moon a appelé à ce que le Conseil de sécurité agisse d'une seule voix, plusieurs pays en évoquent la réforme. Le président Goodluck Jonathan du Nigeria.
Le terrorisme d'aujourd'hui est vicieux. Que ce soit Al-Qaïda au Maghreb, Al-Shabaab en Somalie, Boko Haram au Nigeria ou l'État islamique en Irak et au Levant, l'implication des combattants étrangers en est un trait commun. Il s'agit d'un défi majeur qui requiert une réponse collective et une révision des outils des opérations de maintien de la paix. L'incapacité du Conseil de sécurité à agir à l'unanimité pour répondre aux défis urgents en matière de paix et de sécurité internationale, en Syrie, en Irak, en Ukraine, et pour ce qui est de la situation entre Israël et la Palestine, renforce les arguments en faveur d'une réforme du Conseil.
Et pour clore, quelques mots d'espoir du secrétaire général Ban Ki-moon.
Les problèmes et les possibilités de domaine ne doivent pas être masqués par la fumée que dégagent les incendies d'aujourd'hui. Les raisons d'espérer sont peut-être difficiles à discerner, mais elles existent. Dans les hôpitaux, dans les écoles et ailleurs, loin des projecteurs, le développement avance à grands pas. La pauvreté, la mortalité de l'enfant et maternelle ont diminué de moitié. Il reste du chemin à faire, mais ces avancées et bien d'autres montrent ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale et au terrorisme international. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Jean-Pierre Amessi Ramazani, de Florence Westergaard et de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.